Aujourd'hui, notre émission nous amène à la lecture d'une petite chronique qui nous plonge dans le Moyen-Âge. Cette chronique parle de Phébus, Gaston Phébus, le chevalier. Vous pouvez retrouver cette petite chronique dans l'ouvrage « Mélanie m'a dit l'Ariège » aux éditions du Refuge, page 39. Dans son ouvrage, Pierre Tucauchala raconte Phébus, le chevalier. Selon l'auteur, il existait une contradiction qui s'imposait aux princes et aux conquérants de la seconde moitié du XIVe siècle. Vivre sa réalité et être un mythe vivant. Bercé par les plus doux et les plus fantasques rêves aux gestes désintéressés, ces chevaliers passaient au final leur vie à peser quotidiennement l'efficacité de leurs actes. Chevaliers ou stratèges, l'heure était à montrer les deux facettes du pouvoir, bravoure et stratégie. Une année durant, Phébus chevaucha auprès du grand maître des chevaliers teutoniques pour parachever sa légende naissante. Régulièrement, ce maître demandait aux seigneurs occidentaux de participer à des expéditions contre les païens. Ces croisés en campagne recevraient tous les avantages inhérents à leur statut, la protection des biens et le domaine durant le voyage, la gloire et les indulgences à leur retour. Mais pour Phébus, point de préparation ni de testament. La seule protection qu'il mit en place sur ces terres alors sous tension des conflits de la guerre de Cent Ans était la présence d'un personnage, Jean III de Grailly, marié à une héritière de Foix et considéré comme l'un des plus fidèles lieutenants du roi Édouard III d'Angleterre. Phébus sut toujours s'attacher les faveurs des plus grands. Lors de sa chevauchée, alors qu'il foulait les terres du nord de l'Europe, franchissant les landes couvertes de givre de Lituanie, il fit la rencontre d'animaux jusque-là inconnus, les rennes. Plus tard, il dicterait à son chroniqueur les riches descriptions qui composent le fameux livre de la chasse. Le renne est une bien étrange bête, et pour cela je vous le décrirai. Premièrement, sa tête est bien singulière, car il l'a plus grande et plus chevillée que le cerf. Et porte bien 80 corps et parfois moins, selon qu'il sera vieux et grand renne. Quand on le chasse, il fuit peu, à cause de sa grande charge qu'il a sur la tête. Mais tantôt, il s'accule à un arbre pour que rien ne le puisse aborder que devant. Mais puisqu'on le chasse peu, je cesserai de parler de leur nature, car j'en ai assez dit. Sur le chemin du retour, averti d'un soulèvement de Jacques dans la ville de Meaux, il fit une halte, se pressant de délivrer la dauphine de France et la duchesse d'Orléans, captives des paysans rebelles. Phébus, sur son fidèle destrier, armé de son homme, l'épée à la main, écrasa ses ennemis d'un jour. Cette victoire fit de lui un héros, l'image du vénérable qu'il voulait être. Après cet épisode, il se para de ses plus grands symboles, créant de toutes pièces et de son vivant son nom, son cri et sa devise. Un nom, Gaston dit Phébus, prince soleil, victorieux et glorieux. Dans l'Antiquité, le terme de Phébus appartient à Apollon, dieu grec remarquable par sa taille et sa beauté. Le terme de Phoibos, qui a donné Phébus, signifie brillant, lumineux. Les Latins en firent un dieu solaire, frère d'Artémis, déesse de la chasse, devin et guérisseur, poète, musicien, purificateur, qui menait les hommes dans le monde de l'inconnu. Ensuite, un cri. Cri lancé pour la première fois en libérant les demoiselles de Meaux face au Jacques. Phébus avan. Et pour finir, une devise qui désignait désormais la maison de Foix-Béarn, Tocosi Sigauso. Touches-y si tu oses. Sur ces terres, il devenait soleil, astre lumineux, fiché dans les montagnes Pyrénées. Armé de ses plus beaux atours, Phébus poursuivait son désir de grandeur et de lumière mêlé aux mortels dont il faisait partie. Cette histoire est issue du petit recueil de chroniques Mélanie m'a dit l'Ariège, à lire et à relire aux éditions du Refuge. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. À bientôt par la lecture ou alors en Ariège.